Il aime bien être flatté de bon matin, l'ami Thomas Legrand. Léa Salamé, vous recevez le directeur du Festival d'Avignon.
Bonjour Olivier Pie.
Bonjour Léa.
On va parler d'Avignon dans un instant, mais d'abord, comment le metteur en scène que vous êtes juge-t-il la scénographie, la pièce de théâtre qui va se jouer dans quelques heures à Versailles d'un président de la République face à son Parlement?
Je pense que c'est toujours une bizarrerie que cette 5e République avec un exécutif à deux têtes. Donc chaque président essaie de répondre à cette bizarrerie à sa manière, quelquefois en étant hypo, quelquefois en étant hyper. Mais ça reste pour le reste du monde une bizarrerie française.
Oui, il faut supprimer le Premier ministre, quoi.
Ou le président, en fait.
Il faut faire quelque chose. Vous qui aimez les personnages baroques et transgressifs, vous pensez quoi d'Emmanuel Macron?
Bah, c'est vrai qu'il est tout à fait fascinant pour un homme de théâtre. D'abord parce que la France a connu quelques rois, mais très peu de princes. Sa jeunesse, d'abord, c'est une chose extraordinaire. Faut voir comment le monde le voit, comment le monde nous voit. Le monde est fasciné par ce jeune homme, ou encore jeune, qui a réussi à briser toutes les habitudes politiques qui avaient 60 ans d'histoire. Oui, c'est une histoire extraordinaire.
Vous dites que c'est un personnage shakespearien. Lequel ?
Alors, j'ai dit Coriolan, hein, c'est un personnage qui n'est pas très très connu, mais voilà, Coriolan, c'est celui qui veut dire la vérité, mais rien que la vérité, et qui a peur que le discours politique l'empêche de dire la vérité. Donc c'est un homme qui a un rapport étrange à la vérité. Alors, j'espère que Macron sera ça, j'espère que ce sera un homme qui dira la vérité. Je trouve que pendant la campagne, ça a été le cas, il a dit la vérité, souvent.
Alors pendant la campagne, il a aussi dit « il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France ». Ça a beaucoup choqué. Est-ce que ça vous a choqué ?
Ben, c'est un peu complexe, effectivement, comme pensée, là.
Ouais.
C'est un peu complexe. Je comprends ce qu'il a voulu dire, je crois que la formule était maladroite. Il a voulu dire que la culture française est une culture universaliste et pas identitaire, nationale, encore moins nationaliste. Donc c'est directement envoyé au Front National, qui pense que la culture française doit être franco-française, pot-au-feu,
de
etc.
Souche.
De souche. La France, pour moi, évidemment, c'est celle de Shakespeare, de
Kafka,
de Picasso.
Oui, d'accord, mais d'arriver à dire il n'y a pas de culture française.
Non, la formule était maladroite, elle pouvait être mal interprétée.
Il y a une culture française.
Il y a une culture française qui est justement celle de l'accueil. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis français, absolument français, pas de doute, je parle français, ma langue c'est le français. Mais s'il n'y avait pas eu Shakespeare et Kafka et Picasso dans ma vie, qu'est-ce que ça voudrait dire, la culture ?
La nomination de Françoise Nyssen, femme de lettres, éditrice, votre éditrice chez Actes Sud, au ministère de la Culture.
Bah, je ne peux qu'applaudir.
Ce matin, vous êtes sous le charme, en fait. Là,
de Françoise Nyssen,
c'est
pas ce matin, ça fait longtemps que je suis sous son charme. Mais ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle s'intéresse particulièrement à l'éducation. Et là, je crois qu'il y a eu un grand déficit ces dernières années. Si la culture et l'éducation ne travaillent pas main dans la main, je crois qu'un de ses premiers rendez-vous a été avec le ministre de l'Éducation. S'il n'y a pas ce travail qui est fait en commun, alors à mon avis, il n'y a pas d'avenir pour la culture. La culture, ça commence à l'école.
Les promesses d'Emmanuel Macron pour la culture, ouvrir les bibliothèques le dimanche, et puis ce passe culture pour les jeunes, 500 euros pour aller au musée, pour aller au théâtre, pour aller au cinéma. C'est bien ou c'est cosmétique ?
Oui, non, ça c'est des gadgets. C'est bien, hein, moi je suis content que les bibliothèques soient ouvertes. Mais c'est des gadgets. Non, ce qu'il faut, c'est des sous.
C'est de l'argent.
Bah, bien sûr, c'est des sous. Alors, je pense que les budgets de la culture, que ce soit au niveau des collectivités locales ou de l'État, c'est toujours politique, c'est jamais comptable, hein, parce que c'est des marges ridicules dans un budget. Donc j'attends de voir comment va être voté le budget, puis là on pourra savoir s'il y aura une politique culturelle ou pas.
Votre roman Les Parisiens, qui sera adapté à Avignon, parle de la comédie du pouvoir, des courtisans, des intrigues de palais, de comment il faut flatter le prince pour obtenir des postes élevés de pouvoir à la culture. Est-ce que vous avez flatté le prince ? Est-ce que vous avez été un peu courtisan pour avoir Avignon ?
Pour avoir Avignon, mais ce n'est pas du tout Emmanuel Macron à l'époque,
non,
c'était Nicolas Sarkozy. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais il faudrait une émission de 15 heures pour raconter cette histoire. Mais en tout cas, j'ai été au cœur, oui, de certaines décisions, évidemment, en ce qui concerne la culture, puisque c'est uniquement mon champ de connaissance.
Est-ce que vous avez dû être courtisan, vous ?
Un homme de théâtre est toujours un courtisan. Vous savez, le théâtre, c'est entre jardin et cour. Sur la Seine, il y a jardin et cour. Alors, dans un homme de théâtre, il y a toujours un jardinier et un courtisan, c'est-à-dire un artisan du plateau et puis un homme qui a à voir avec le pouvoir.
Ouais. Alors Avignon, 71e édition, ça commence jeudi, l'an dernier gros succès, vous avez enregistré une nette hausse de fréquentation. Cette année, le festival est placé sous le signe de la femme, vous faites dans l'air du temps.
De la femme, des femmes. Ah bon, c'est dans l'air du temps. Ben tant mieux, alors là, j'en suis ravi. Parce que je pense pas qu'on soit vraiment sorti d'une société patriarcale, en tout cas.
C'est étonnant, je vous ai entendu dans une autre interview sur France Musique hier dire « Mon ennemi, c'est le patriarcat.
Oui.
Ça veut dire quoi cette phrase? Alors, ça m'a un peu surpris.
Oui, mais je parlais de mes 15 ans, hein. Je parlais de mes 15 ans là, je pense, de mon adolescence. Oui, le jeune adolescent homosexuel, il a comme ennemi le patriarcat. Oui, il a la violence machiste face à lui, oui. Et c'est vrai pour les femmes aussi. Et c'est ça qui fait que, entre les luttes LGBT, LGBTQI, et les luttes féministes, il doit y avoir un accord, parce que on a face à nous, oui, la violence du patriarcat.
Et ça, vous dites, mes amis marxistes ne l'ont pas compris.
Ah non, pas du tout. Non, non, mais ça, ils comprenaient pas. Je parle des années 80, mais quand on leur disait que les droits des homosexuels ou les droits des femmes, ça semblait un combat bourgeois pour eux. Il n'y avait que la lutte des classes. Mais pour nous, c'était la lutte des classes. Donc là, il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris que la moitié de l'humanité, qui s'appelle les femmes, était complètement dominée par une autre moitié. Et il y avait cette lutte des classes aussi.
J'imagine qu'il faut trouver un juste équilibre dans la programmation quand on dirige Avignon. Il faut à la fois parler aux initiés, aux puristes, sans se couper du public populaire. Alors quand, par exemple, Antigone en japonais dans la cour d'honneur, c'est audacieux, certainement. Est-ce que c'est populaire?
Alors, à l'ouverture des guichets, on a toujours une sorte de sondage, en quelque sorte, qui est fait dans les 2-3 premières heures, puisqu'on voit ce qui est demandé en premier par les spectateurs. Le spectacle qui a été le plus demandé cette année, c'est celui de Dorothée Munyaneza, qui est assez inconnu du grand public, et qui est un spectacle sur le viol des femmes au Rwanda. Donc, c'est ça ma définition du théâtre populaire. C'est-à-dire que l'exigence ne veut pas dire, au contraire, qu'on va débouter une partie du public. Au contraire, le public nous surprendra toujours.
Ouais. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer Yasmina Reza ou Alexis Michalik, les nouvelles... Enfin, Reza n'est pas une nouvelle star, mais Michalik, si, du théâtre privé. Est-ce qu'on peut les imaginer un jour à Avignon? C'est pas possible.
En tant qu'artiste, pourquoi pas? En tant que parangon du théâtre privé, certainement pas. Moi, je défends le théâtre public. J'aime le théâtre public. Ma vie,
mais
c'est le théâtre public.
Mais en tant qu'auteur?
En tant qu'auteur, pourquoi pas? Tout le monde est bienvenu à Avignon.
Ouais.
Mais chaque année, vous savez, il y a des gens que je programme pas, parce que je programme 50 spectacles, et ça en laisse à peu près 550 sur le carreau. Donc ça fait quelques amertumes, quelquefois, c'est certain.
Olivier Py, un mot pour terminer sur Simone Veil.
Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer de manière très simple, un jour, de prendre un café avec elle, et c'est vrai qu'elle m'a raconté sa déportation, c'était très très touchant. Et surtout, elle a raconté comment elle a été en quelque sorte sauvée, puisqu'elle a été mise dans un baraquement moins dur, parce qu'elle était jeune et parce qu'elle était belle. Elle s'est sauvée elle, et elle a sauvé sa mère et sa sœur, simplement avec ses beaux yeux. C'était très, très, très bouleversant, oui.
Olivier Py, notre invité, belle journée à vous, et rendez-vous à Avignon dans quelques jours.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à tous les deux, c'est jeudi, le coup d'envoi du Festival d'Avignon. Merci Léa Salamé, merci à votre invité.